Donc Stéphane nous a parlé du prophète Habacuc et nous a rappelé que Habacuc est un prophète qui questionne Dieu parce que Dieu ne répond pas à sa prière. Et il a mis en exergue un petit peu ses interrogations et les a prolongées dans ses interrogations à lui. Il nous a présenté le fait pourquoi Dieu n'avait pas répondu favorablement à plusieurs de ses prières. Une de ses prières, c'était qu'il désirait gagner au loto pour servir la cause de Christ et sortir l'assemblée dans laquelle il était à l'époque d'une difficulté financière. L'autre chose, c'est que son témoignage engagé auprès d'une dame ne trouvait pas de réponse chez cette dame, réponse de foi en Christ. Il a prié et il n'a pas eu ses réponses, pourtant elles lui paraissaient justes à ses yeux. Puis au final, il s'est rendu compte que 20 ans après, l'assemblée qui était dans des difficultés financières, ben finalement est toujours là et son activité tourne toujours. Dieu a répondu d'une autre manière et lui a peut-être évité le cadeau empoisonné de gagner au loto. Je ne sais pas si vous avez déjà gagné au loto, mais ça peut être un sacré cadeau empoisonné. Hein ? Je vois qu'il y a beaucoup de gagnants du loto dans la salle. Pour la seconde situation, il est toujours pour l'heure sans réponse. Et des fois, on n'a pas la réponse visible et apparente de ce que Dieu fait. Stéphane nous a aussi super bien expliqué le moment où ça se situe dans l'échelle du temps. Hein, vous vous souvenez, il nous a fait une grande explication pour nous expliquer à quel moment le livre d'Habacuc est écrit. Alors, Israël, à l'époque du livre d'Habacuc, est en deux royaumes. Il y a le royaume du nord où il y a 10 tribus qui sont liées entre elles. Et il y a le royaume du sud où il ne reste plus que 2 tribus. Le royaume du nord, depuis longtemps, est déporté suite à son infidélité. Et il reste le royaume du sud. Donc c'est un tout petit royaume où il y a encore Jérusalem. Si le royaume du nord est déjà déporté, le royaume du sud vit une période, au moment de la rédaction du livre d'Habacuc, relativement tranquille, relativement calme. Hein ? Les Assyriens, qui sont la puissance la plus belliqueuse, la plus entreprenante, finalement sont assez calmés parce qu'il y a une nouvelle force dans l'échiquier géopolitique du moment qui s'est levée, c'est les Babyloniens. Et les Babyloniens les ont calmés. Donc, le royaume du sud est dans une relative tranquillité. Hein. Et la menace babylonienne semble, vous savez, très loin, un petit peu comme quand on entendait parler du Covid au mois de novembre ou décembre. Hein. C'était une distraction chinoise très loin, mais ça ne nous concernait pas. Ben, c'est un petit peu exactement la même situation. C'est un truc qui est loin, ça ne nous concerne pas. Et le royaume du sud, eh bien, profite de ce moment calme entre 605 et 612 avant Jésus-Christ, c'est 7 années calmes, il profite de ce moment pour faire n'importe quoi. Il s'adonne au culte idolâtre, avec toute la corruption morale qui est liée avec. Tout le système du pays est corrompu, entre les politiques, le système religieux, etc. Les plus faibles sont exploités. Hein. Il y a de la violence qui est liée avec. Ça ne va pas du tout dans le royaume du sud. Et c'est pour ça qu'Habacuc prie. Et il prie l'Éternel en disant, mais jusqu'à quand tu vas tolérer une situation pareille? Et c'est ça le contexte du livre d'Habacuc. Pourquoi Dieu ne fait pas justice dans ce royaume? Pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières de demande de justice pour ce royaume? Pourquoi Dieu, tu tolères la corruption? Pourquoi tu restes silencieux face au succès des méchants? C'est intéressant les questions d'Habacuc parce que ça rejoint aussi des questions que ou nous on s'est posées ou on a entendues autour de nous. Hein. Une des questions qui nous revient souvent quand on parle de Dieu, mais si Dieu est bon, pourquoi la souffrance et l'injustice dans le monde? Pourquoi tant d'inégalités? Pourquoi ça ne va pas dans ma vie si Dieu est bon? Certainement qu'on a déjà eu ces observations, ou voire même qu'on s'est posé nous-mêmes la question dans une passe un peu difficile. Alors ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va lire le livre d'Habacuc. Donc pour ça, je vous propose, si vous avez une Bible, de l'ouvrir au livre d'Habacuc. Alors pour trouver Habacuc, c'est assez simple, c'est le cinquième livre avant la fin du Nouveau Testament. Il est coincé entre Jonas, Michée et Nahum, et les quatre derniers livres de l'Ancien Testament, Sophonie, Agée, Zacharie et Malachie. Alors ceux qui ont des téléphones, des tablettes, c'est facile, hein, il suffit juste de faire clic, on tourne moins de pages. Mais si vous n'avez pas vos Bibles avec vous, je vais essayer de lire distinctement pour qu'on puisse profiter du texte. Habacuc est un prophète de l'Éternel. Il est mentionné comme tel au verset 1. Et c'est d'ailleurs assez rare que ce soit stipulé comme ça pour un prophète au début d'un livre. Donc c'est quelqu'un d'attaché réellement à l'Éternel. Donc je prends Habacuc, chapitre 1, et je commencerai à partir du verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès, des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. L'interrogation est forte. Dieu n'a pas l'air de répondre. Pourquoi tu ne réponds pas? Et certainement que le prophète Habacuc, vu que c'était un prophète, connaît très bien la parole de Dieu et il sait que Dieu fait justice, et c'est pour ça qu'il prie dans ce sens. Il connaît les écrits, un prophète, c'est pas quelqu'un qui annonce juste des choses qui doivent arriver, c'est quelqu'un qui, en premier lieu, connaît très bien la loi de l'Éternel et qui l'applique à son temps. Et justement, l'application, là, c'est pourquoi l'injustice est-elle si forte et tu ne réponds pas à mes demandes de justice? Et l'indignation d'Habacuc est légitime. Vous avez vu que la loi, il est question de la loi de Dieu, plus personne ne la suit, et le droit social n'est pas du tout appliqué. C'est des procès qui sont corrompus, où les dessous de table triomphent de la justice. Pourquoi Dieu ne fait pas justice? Et la prière d'Habacuc, elle est juste, elle est légitime et réellement animée d'un amour et d'un zèle pour Dieu. Et Dieu ne le foudroie pas de poser une question comme il l'a fait. Pourquoi tu ne me réponds pas? Dieu ne l'a pas foudroyé pour cela. Dieu écoute et d'ailleurs va faire une réponse à Habacuc, mais pas forcément la réponse qu'il attendait. La réponse que Dieu donne, c'est « Je suis conscient de cette injustice et je vais susciter les Babyloniens pour y répondre. » Regardez au verset 5. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable. Il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que le léopard, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle, ils fondent sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Le visage tendu vers l'avant, il rassemble des prisonniers comme du sable. Ils se moquent des rois et les princes sont l'objet de leur raillerie. Il rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et les prend. Alors, il change d'avis, poursuit sa marche. Il se rend coupable, sa force à lui, voilà son Dieu. » la réponse de Dieu à Habacuc n'est pas la réponse qu'il attendait. Et ça n'est pas une bonne nouvelle. En effet, c'est les Babyloniens qui ont supplanté les Assyriens. Les Assyriens étaient connus pour leur cruauté, leur horreur, la manière dont ils pillaient et prenaient les villes. Mais les Babyloniens vont supplanter les Assyriens, pas uniquement en termes de domination, de territoire, mais aussi en termes de cruauté et de peu de respect pour la vie humaine. Et c'est un petit peu, si on voulait contextualiser la réponse de l'Éternel, face à la crise de 1929 et tous les troubles géopolitiques, la souffrance, le chômage qu'il y avait à l'époque, c'est comme si Habacuc priait à cette époque et disait « Mais Seigneur, fais quelque chose pour toutes ces personnes qui ont faim, qui n'ont pas de travail, etc. » Et la réponse de l'Éternel, ce serait « Oui, ce sera le nazisme et c'est Hitler. » C'est exactement ça ce que est en train de lui dire l'Éternel à Habacuc. Les Babyloniens sont du même acabit, ou voire peut-être même pire que le nazisme et ce qu'a fait Hitler. Hein, si on transfère aussi dans d'autres endroits plus récents de notre planète, c'est comme si en Syrie et en Irak, les personnes qui étaient dans les difficultés avec Bachar el-Assad et tout ce contexte-là, Dieu disait « Oui, j'ai une réponse, ça va être Daesh ». Ou Boko Haram en Afrique. C'est ce qu'est en train de dire l'Éternel. Et ça nous permet de mesurer la sidération d'Habacuc face à la réponse de l'Éternel. Quoi ? À l'injustice, tu réponds par pire ? Bien pire qu'Israël, plus corrompu, plus violent, plus idolâtre. Ils traitent les humains comme des animaux. Hein. Pour eux, les humains qui ne sont pas de leur clique, ben, il les considère comme des poissons qu'il ramasse dans un filet et qu'il jette sur le sable. Pour Habacuc, ça ne colle pas avec ce qu'il connaît de l'Éternel. Hein? Comment tu peux utiliser une nation violente, une nation corrompue, comme instrument de châtiment? Regardez, au chapitre 1 et à partir du verset 12. « N'es-tu pas depuis toujours éternel ?» Yahvé, hein, c'est ce qu'il est en train de dire. Rien que le nom de l'Éternel pour lui a une signification qui est forte, qui est pure, qui est extraordinaire. N'es-tu pas depuis toujours éternel, mon Dieu, mon Saint ? Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres ? Pourquoi regarderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître ? Les Babyloniens les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les ramasse dans sa nasse. Alors il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet, il fait brûler de l'encens en l'honneur de sa nasse, car grâce à eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations ? Habacuc demande des explications. Et d'ailleurs, il se considère comme un veilleur, une sentinelle qui est sur les remparts d'une ville et qui attend la réponse de Dieu. Hein, c'est ce qu'il dit au verset 1 du début du chapitre 2. « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. » Notre version dit pour la dernière phrase « Je veux être attentif à ce que le Seigneur aura à me montrer, à ce qu'il répondra à ma supplication. » Dieu est toujours à l'écoute. Et je crois que c'est d'ailleurs un des grands enseignements de ce livre. Même si on s'attend à une réponse qui est la nôtre et on aimerait que Dieu valide nos réponses, Dieu est toujours à l'écoute. Et ici, il répond à Habacuc. Il va lui répondre. Hein, même si ce n'est pas la réponse que Habacuc attendait. Mais Dieu est toujours attentif et on le voit par le fait qu'il réponde ici. Dieu lui demande de sortir des tablettes et un burin. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, hein, on est d'accord. Il n'y avait pas plus de cahiers avec des stylos Bic, mais il lui demande de sortir des tablettes. Il y avait aussi tout ce qui était papyrus, mais là, il lui demande de sortir des tablettes et un burin pour écrire sa réponse. C'est un petit peu une image comme pour dire, regarde, ça va être figé. Ce qui est figé, c'est certain. Et ça va s'accomplir. Et donc, quand on écrit au burin, hein, quand on taille quelque chose sur une tablette, on ne peut pas mettre du Tipex ou du Corrector, hein, parce que c'est gravé. Et c'est pour ça que Dieu lui demande de sortir une tablette et un burin pour que Habacuc puisse graver ce qu'il voit et ce qu'il entend de la vision que va lui envoyer Dieu. C'est comme pour dire ce qui va venir, cet avenir est certain, les temps sont arrêtés, les temps sont fixés, et même si il te semble que l'accomplissement va tarder, il va finir par arriver. Regardez au verset 2 du chapitre 2. L'Éternel m'a répondu. L'Éternel m'a répondu. Donc Dieu répond, Dieu écoute, même s'il ne fait pas forcément les réponses que l'on attendait. Si Dieu exauçait toutes nos prières dans le sens de nos idées, ce ne serait pas l'Éternel. Ce serait une idole, et c'est d'ailleurs le sens des idoles. Hein. Les idoles, elles avaient un avantage, c'est qu'elles ne bougeaient pas, et toutes les idées que l'on avait, on pouvait les projeter et puis se convaincre que c'était la bonne solution. Verset 2, donc je relis, « L'Éternel m'a répondu et a dit, « Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et le verset 4 est certainement le verset central, un des versets principaux de tout ce livre. On va le lire. Il est plein d'orgueil celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. D'autres versions disent, celui qui n'est pas droit et qui est plein d'orgueil ne subsistera pas, mais c'est grâce à sa foi que le juste vivra. Au travers de tout ça. Et c'est le verset clé de ce livre d'Habacuc. En plaçant sa confiance réellement, en la vivant, cette confiance vis-à-vis de l'Éternel, même si les temps sont troubles et semblent pas avoir de réponse, même si les temps vont être troubles quand ils vont être envahis par les Babyloniens, parce que ça va arriver finalement, eh bien, le fait de se confier en l'Éternel donne une autre perception, une autre attente. Et même si tout semble s'écrouler, même si rien ne semble aller, Dieu est aux commandes et Dieu contrôle toutes choses. Et le fait de le savoir et de se réfugier en lui change totalement la vision des choses et la crainte que l'on peut avoir face aux événements. Si apparemment ça ne paraît pas juste ce qui arrive ou la manière dont ça arrive, sache qu'un jour « ma justice passera ». On le verra plus précisément la fois prochaine. Mais place ta confiance en moi, c'est ce qui est en train de dire l'Éternel. Place ta confiance en moi. Même si ça ne semble pas logique, même si ça ne colle pas avec ta compréhension de la Bible, si cela ne correspond pas à tes échelles de valeur, place ta confiance en moi. Fais-moi confiance. Je vais t'aider à vivre ces moments difficiles. On va les traverser ensemble. Alors, ça n'enlèvera pas la difficulté. Les Babyloniens vont arriver et ils vont faire comme d'habitude. Mais ça change tout pour Habacuc, le fait de savoir que Dieu est aux commandes. Ça n'enlève pas le questionnement. Et Dieu ne lui a pas répondu pourquoi c'est les Babyloniens qui vont venir. mais il lui a donné quelle était la clé pour vivre ces moments. Notre société occidentale aime bien savoir le pourquoi du comment. Et d'ailleurs, on a une foule d'informations et on sait beaucoup de choses, mais ça ne nous aide pas à vivre. On accumule les infos, ça nous stresse ou ça nous rassure, mais ce n'est pas ça qui nous aide à vivre. Et c'est exactement la même réponse que fait ici l'Éternel Habacuc. La meilleure des réponses, c'est que tu aies confiance en moi. Et puis, qui sait, peut-être que tu verras la finalité de ce qui va se passer, et ça t'aidera à mieux appréhender ma personne, à mieux me louer et mieux m'adorer. Et peut-être qu'on a des témoignages de choses qui sont passées dans notre vie et qui étaient à l'encontre de ce qui semblait être l'idéal. Et puis après, avec le recul, eh bien, on voit que Dieu nous a permis de traverser la situation et ça nous donne une facette différente de la grandeur et de la souveraineté de Dieu. Mais des fois, on ne le voit pas. Des fois, on prie pour certaines choses et on n'en voit pas le résultat. Peut-être que ce sera une ou deux autres générations ou quelqu'un d'autre qui verra l'accomplissement. Mais ça n'enlève pas le conseil que Dieu donne ici. Place ta confiance en moi. Je suis au contrôle, ne te fais pas de soucis. Et si on décharge nos interrogations, nos craintes, notre soif de justice, nos incompréhensions, si on les décharge à Dieu, et si on place notre confiance en lui, eh bien ça nous permet de traverser différemment les moments où on pense que les choses ne vont pas dans le bon sens. Je reviens aux exemples que nous a donné Stéphane dimanche dernier. Il a vu la main de Dieu 20 ans après pour l'Église, elle est toujours là, sans avoir gagné au loto. Hein. Mais pour l'heure, il est sans réponse pour la fermeture à l'Évangile de la dame pour laquelle il apporte des soins depuis des années et des années. Il ne verra peut-être pas la réponse, mais Dieu demande de placer notre confiance en lui, même si on ne voit pas la réponse. Je vous propose, dans la suite de ce cantique, avant qu'on voit un autre aspect, justement, d'une apparente injustice peut, à nos yeux, peut faire déboucher quelque chose d'extraordinaire. Mais avant, j'aimerais qu'on chante un chant que l'on connaît bien, en tout cas pour ceux d'une certaine génération, et moi, comme je suis du siècle passé, je le connais bien aussi. C'est « Quand je craindrai sur la route », c'est ça ? Un cantique de guerre et gloire sur sa vie, « Quand je craindrai sur la route ». Merci pour ce cantique qui rejoint l'histoire de l'action biblique. Et on pourrait, d'ailleurs, ça m'est venu en chantant, se poser la question pourquoi Dieu, en 1917-1918, a permis qu'il y ait la grippe espagnole, alors que c'était un moment de réveil, un moment où la proclamation de l'Évangile par M. Alexander recevait un écho exceptionnel. Des salles de plusieurs milliers de personnes étaient à l'écoute de l'Évangile. Des centaines de personnes se tournaient à l'Évangile. Et Dieu a permis qu'il y ait la grippe espagnole et que les rassemblements étaient interdits comme ce que l'on a vécu ces derniers temps. Tous les rassemblements étaient interdits. Et ça a duré de longs mois. Et c'est pendant ces mois que M. Alexander a eu l'idée de faire une école biblique. Qui sait ? S'il n'y avait pas eu ce temps d'arrêt, est-ce qu'il aurait eu cette idée ? Et ça a été la première école biblique de langue française qui a permis à des dizaines, des centaines et des milliers de serviteurs de Dieu de se former et de partir dans le monde pour pouvoir proclamer l'Évangile. Une apparente difficulté, injustice face à l'Évangile qui se propageait a donné d'autres pistes et l'Évangile est toujours propagé. Dieu est au contrôle des événements. J'aimerais aborder aussi avec vous, lire une prière de Jésus dans des circonstances troubles, encore plus terrifiantes que la venue des Babyloniens, encore plus terrifiantes que le nazisme, que Daesh ou Boko Haram, encore plus injuste. S'il n'y a pas plus injuste que ça, je ne sais pas ce que l'on pourrait trouver. Je vous lis, ne cherchez pas. C'est dans l'évangile de Matthieu. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être dans la tristesse et à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir, restez éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi ? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive. » Cette prière poignante d'une apparente injustice a été la prière à cette apparente injustice, c'est elle qui nous a justifiés. Et Jésus nous a montré une attitude de confiance, même si c'était l'horreur absolue qu'il allait vivre, c'est-à-dire de porter tout le mal, pas juste les Babyloniens, pas juste le nazisme, pas juste Daesh, pas juste Boko Haram, mais tout le mal, il allait le porter. Alors, je ne vous ai pas tout lu, hein, vous qui êtes des lecteurs attentifs. « Mon Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mon Père, si ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » On a un magnifique exemple du juste qui vit par la foi, la confiance en Dieu. Même ce qui arrive est horrible, Jésus a eu confiance totale dans le Père. Et cette apparente injustice, lui qui est pur, qui est juste, qui est saint, qui est Dieu, qui est le Créateur, va porter tout le mal, va être fait mal pour nous. Et cette injustice nous a apporté la justice de Dieu pour nous qui croyons. Le juste vivra par la foi. Ce n'est pas juste une vague recette que Dieu a confiée à l'homme pour qu'il se dépatouille et qu'il vive avec un espoir incertain. Il l'a vécu lui-même et il a démontré que c'était la solution. Le juste vivra par la foi. Et je crois que ça prend toute sa signification dans ce que Christ a fait pour nous. Et c'est pour ça qu'on va chanter la puissance de la croix maintenant.